Maintenant, Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Il est à Paris. C'est le procès, évidemment, des attentats contre Paris du 15 novembre 2015. Et Fabrice, d'abord, on va parler tantôt de l'expérience très spéciale que tu as pu vivre hier. Mais aujourd'hui, le président là, qui va résumer les 1 million de pages du rapport d'enquête.
Oui, Paul, c'est un long marathon. Puis on espère que son résumé sera efficace parce que sinon, on y est pour des jours. Mais blague à part, ça fait à peu près 350 pages son résumé. Donc en gros, c'est tout ce que les enquêteurs, les juges antiterroristes qui ont instruit ce dossier des attentats ont pu collecter comme preuve, puis aussi toutes les charges, les accusations qui sont retenues contre les 20 accusés, dont 11 sont dans le dox, 3 paraissent libres, et 6 sont en fuite ou présumés morts. Donc il y a eu un petit moment assez drôle aujourd'hui, parce qu'on a fait aussi l'appel de derniers témoins, et à un moment donné, on a entendu témoin Hollande-François, donc du nom d'ancien président de la République. Lui est convoqué le 10 novembre prochain pour témoigner. Et un avocat de la défense élevé a dit « Je ne vois pas en quoi cet individu serait pertinent pour la vérité. » Et le juge, avec un petit accent un peu du sud, l'a rabroué gentiment en disant « Je ne pense pas qu'on puisse qualifier l'ancien président de la République d'individu et c'est un homme comme les autres. »
Alors, ça va être intéressant à suivre, ces délibérations et échanges. Maintenant, revenons sur la journée d'hier. Tu t'es retrouvé donc dans la salle principale du procès, tout juste là, à côté de l'accusé principal, Salah Abdeslam, et quelques 2000 survivants ou proches de disparus vont venir se faire entendre.
Oui, c'est une salle immense, Paul. Puis il faut comprendre que le nombre que vous venez de dire est assez spectaculaire. Tout le monde ne peut pas rentrer dans cette salle principale qui a été construite pour l'occasion dans un hall de l'ancien palais de justice, un hall vraiment majestueux. Et quand on rentre dans cette salle, tout de suite, on est saisi par l'ampleur, le volume de cette pièce, mais qui est fait en matériaux très sobres, en bois blanc, clair, ça a été fait ainsi. Il y a encore des sculptures du hall qui sont encastrées dans les murs, et il y a juste derrière, tout au fond, la scène où il y a les 9 juges qui président ce procès, la balance de la justice qui est juste dessinée derrière eux. Et puis, sur le côté, effectivement, il y a le long box vitré sécurisé où il y a les 11 accusés qui sont rangés par ordre alphabétique, qui sont tous alignés. Donc, sur la droite, le plus près, justement, de l'estrade des magistrats, il y a Salah Abdeslam. Et à l'extrême gauche, il y a Mohammad Ousmane, qui est un Pakistanais, qui a été proche d'Al-Qaïda et qu'on soupçonne d'avoir voulu participer à un attentat aussi à Paris, une probable haute vague d'attentats à l'automne 2015. Et derrière moi, donc, il y a des dizaines et des dizaines de bancs remplis par des parties civiles. Donc, les parties civiles, c'est les rescapés des attentats ou des gens, des proches, des gens qui sont décédés. Et hier, il y en a plusieurs qui ont pu encore se faire enregistrer comme victimes. C'est important parce que ça leur permet de s'exprimer, de raconter, puis aussi d'avoir des dédommagements de l'État. Donc, ça donne une petite idée de ce qu'on va entendre au cours des prochains mois. Il y a eu, par exemple, 6 pompiers dont le camion a été mitraillé à coups d'AK-47 en approchant du Bataclan par des terroristes. Un policier de la brigade qui a donné l'assaut au Bataclan, un homme qui travaillait au Stade de France et qui a vu un des kamikazes se faire exploser juste à côté de lui, puis il en a gardé des séquelles, évidemment, psychologiques et physiques. Et puis, à un moment donné, pendant une suspension de séance, j'ai vu une femme s'approcher à côté de moi, entourée par des psychologues, puisqu'il y a des psychologues qui sont là en permanence pour soutenir ses victimes. Et elle est restée longuement à observer le box, surtout Salah Abdeslam. Après, elle est repartie en arrière, puis je suis allé la voir au moment de cette pause, et elle m'a dit qu'elle avait été au Bataclan avec son compagnon, et que pour elle, c'était important de venir témoigner donc au cours de l'automne. Elle voulait venir ce jour-là, hier, pour s'imprégner de la salle, puis elle disait que c'était vraiment impressionnant, irréel. Elle m'a dit de voir la ses accusés très calmes dans le box, si on se souvient de la violence de leurs actions au moment des attentats, mais elle refuse de raconter ce qui s'est passé. Elle m'a dit « Tout a été dit, je veux juste raconter devant le juge et les accusés l'impact que cette attaque au Bataclan a eu sur ma vie, et puis même si j'ai pas été blessé physiquement. » Donc on voit que pour les victimes, il faut pas les oublier, ça va être un moment, ça va être des semaines extrêmement déchirantes, parce que quand on va rentrer dans le vif du sujet dès la semaine prochaine avec le récit des attentats, avec les policiers, les pompiers, les experts médico-légaux, ça va être des moments extrêmement souffrants pour tous ces gens-là.
En terminant, Fabrice, parle-moi de Abdeslam. Il est comment dans le box? Il regarde en haut, de côté, au sol? Aucune réaction? Comment ça se passe?
Ah, il est très attentif, Paul. Puis hier, il nous a fait encore tout un numéro. Dès le début, il y a eu des discussions d'avocats parce qu'il y a le Bataclan, la mairie de Paris, etc., qui veulent être reconnus comme victimes, et la Cour ne veut pas. Ce sont des entreprises, des assurances, etc. Et à un moment donné, Abdeslam s'est levé, est allé au micro, il a dit « Est-ce que les victimes qu'il y a eu en Irak et en Syrie pourront prendre elles aussi la parole. Et là, immédiatement, le président, Jean-Louis Périès, qui est un homme d'expérience, et qui manie avec un certain dosage, la fermeté, le flegme et l'humour, lui a dit « ça suffit, monsieur Abdeslam », et l'autre a continué. Il dit « vous savez, il s'est mis à disculper, il y a trois accusés dans le box qui, entre autres, sont venus le chercher le lendemain des attentats, on se souviendra, pour le ramener à Bruxelles et le cacher. Il dit « finalement, ce sont des innocents, il dit, on les a condamnés, ça fait 6 ans qu'ils sont accusés, il dit, alors qu'en vérité, ce sont des gens généreux à Molenbeek, le quartier de Bruxelles d'où il était originaire. Il dit, ce sont tous des gens généreux. Ils m'ont aidé sans savoir exactement ce que je faisais. Sous-entendu que j'étais un terroriste, j'avais fait un attentat. Le juge, à un moment donné, s'est énervé. Il lui a dit, vous avez 5 ans pour vous expliquer, monsieur Abdeslam, et vous avez gardé le silence. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et il lui a coupé le micro. Abdeslam a continué de crier dans le box, mais l'audience a été suspendue. C'est évident qu'il est en train de polluer le procès, Paul. Puis ça perturbe tout le monde ici, à la fois les journalistes et les parties civiles. On a l'impression qu'il est en train de capturer les procédures, mais c'est évident que c'est un message, je pense, qui s'adresse plus aux supporters du groupe armé État islamique, à l'État islamique lui-même, à l'organisation. Il veut montrer que c'est lui un peu le boss, alors qu'il a quand même renoncé, on saura peut-être pourquoi, au cours du procès, à se faire exploser à Paris. Mais c'est évident qu'il y a un débat en ce moment parmi les journalistes de dire est-ce qu'on doit rapporter tous les propos d'Abdeslam à chaque fois qu'il fera un esclandre ou si on doit se concentrer plus sur les victimes. C'est vrai que c'est pas évident à trancher parce qu'on est aussi là pour raconter ce qui se passe.
Merci beaucoup Fabrice. Bonne journée. Fabrice Merci de Pierrebourg en direct de Paris.